C'est à vous Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Indignation et menaces en nombre après les derniers bombardements du régime syrien. Dernière réaction en date, celle du ministre français, du ministère français des Affaires étrangères, qui condamne les bombardements. Ces attaques sont, je cite, en violation flagrante du droit international humanitaire. Correspondance de Beyrouth dans le journal et commentaire du chercheur Hasni Abidi. Nous serons en ligne également de Budapest pour constater qu'en ce jour de législative, la participation est forte. Enfin, le Parti socialiste a tenu congrès et son nouveau premier secrétaire Olivier Faure a décrit un PS contre la politique gouvernementale dans la bataille sociale. Le positionnement européen est plus difficile. Analyse signée Laurence Perron. Juin 2013, le journaliste et le photographe de guerre Jean-Philippe Rémy et Laurent van der Stock sont en reportage dans la banlieue est de Damas aux côtés de combattants anti-régime. Bombardement, les combattants suffoquent. Nos deux confrères vont alors enquêter pendant 2 mois et accumuler les preuves de l'utilisation par le régime syrien d'armes chimiques. Entre 2012 et 2017, le régime a utilisé pareilles armes à 130 reprises. Ce sont là les données fournies par le ministère français des Affaires étrangères. Combien de déclarations enflammées ces dernières années, alors qu'attendre du tweet hargneux de l'après-midi du président américain Donald Trump qui promet de faire payer le prix fort à Bachar el-Assad, qu'attendre des soupçons appuyés d'Ankara de l'indignation du pape. Le régime, bien entouré, nargue les démocraties occidentales et négocie les dernières évacuations de la Ghouta. Là encore prudence, car à Douma, les représentants du groupe Jaïch al-Islam n'ont pas encore donné leur accord. Précision à Beyrouth de Nicolas Feldman.
L'accord a été annoncé cet après-midi par Sana. L'agence d'information officielle syrienne rapporte que des dizaines de bus sont déjà entrés dans Douma. Ils doivent évacuer tous les combattants de Jaïch al-Islam d'ici les prochaines 48 heures, direction la ville de Jarablus, dans le nord de la Syrie. Au terme de cette opération, toujours selon Sana, le groupe armé devra aussi libérer ses otages. Côté rebelle, toujours aucune réaction à cette annonce. La semaine dernière, un accord du même type encadré par la Russie avait déjà été conclu. 3000 combattants avaient été évacués de Douma pour Jarablus. Là non plus, aucune source officielle de Jaïch al-Islam n'avait confirmé l'accord. Des dissensions existent au sein du groupe armé puisque l'aile la plus radicale refuse de quitter Douma, la dernière poche rebelle qu'il contrôle aux portes de Damas. Une position qui a motivé la reprise des raids aériens du régime sur l'enclave depuis avant-hier. En 24 heures, l'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre la mort de 70 civils dans ses frappes.
Bonsoir Hasni Abidi.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur, vous êtes directeur du Centre d'études sur la Méditerranée et le monde arabe à Genève. Un mot bref sur la Ghouta. Que représente la Ghouta pour le régime syrien?
C'est un lieu très important, stratégique, parce qu'on est aux portes de Damas. Le deuxième élément, c'est que le régime syrien a toujours voulu s'emparer de tous les centres urbains et surtout les localités qui sont proches de Damas. C'est lui qui contrôle Damas, contrôle le pouvoir. Il était hors de question pour le régime syrien de laisser cette région aux mains des insurgés.
Alors Hasni Abidi, la Ghouta aussi compte beaucoup pour les chancelleries ce soir. Vous avez, comme vous, comme les autres, écouté l'entame de ce journal. Qu'attendez-vous, monsieur Abidi, des communiqués du tweet britannique, du communauté américain, des réactions françaises? Je ne les ai pas toutes données, mais il y en a encore qui défilent à l'instant où je vous parle. La France demande que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunisse dans les meilleurs délais.
Et là, c'est pas grand-chose, parce que nous assistons à un ballet de déclarations publiques, de déclarations médiatiques, politiques, à une répression militaire, à un régime qui a toujours bafoué les règles les plus élémentaires de droit international. Les Nations Unies nous ont dit à plusieurs reprises qu'il y avait effectivement une utilisation donc de gaz ou d'armes interdites et rien n'a été fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, le régime syrien est dans sa position. Il va continuer avec le soutien du régime syrien. Il a utilisé cette si, bien sûr, s'il y a des preuves de son utilisation par le régime pour, bien entendu, faire plier tous les membres de l'opposition et reprendre la Ghouta orientale et surtout la ville de Douma.
Alors, est-ce que cette administration américaine peut aller au-delà des revirements de M. Obama, qui avait tracé des lignes rouges? Les lignes rouges ont bien pâli, mais est-ce que l'administration Trump peut aller plus loin?
Il faut rappeler que l'administration Trump ne nous voulait pas, ou le président Trump pendant qu'il était en campagne, ne voulait surtout pas d'une intervention militaire. Aujourd'hui, il l'utilise plutôt parce que il a un contentieux avec l'Iran, il a un contentieux aussi avec la Russie, même s'il n'est pas avoué. L'intervention militaire américaine, elle sera probablement limitée dans l'OTAN et dans l'espace, comme on l'a vu lors de la dernière attaque chimique par le régime syrien. Mais sans concertation internationale, sans une réponse vraiment concertée et unie et forte de la communauté internationale, le régime syrien a défié la communauté internationale. Il a vu que face à lui, il y a un vide. Il continue à le faire.
Mais qui a la main ? L'Iran, ce soir, dit complot. Moscou met en garde Washington, je cite, contre des prétextes fabriqués. Qui a la main pour justement tenir à bonne distance ce régime syrien de réaction internationale ?
Et vous avez raison, nous avons assisté à une scène très importante, inédite dans le monde arabe et aussi sur la scène internationale, où vous avez trois présidents, le président iranien Hassan Rouhani, le président Erdogan turc et le président Poutine, qui se réunissent à Ankara pour sceller un nouveau partenariat stratégique qui va porter cette fois-ci sur la question politique, la dimension politique de la crise syrienne, sans présence des pays occidentaux, sans présence même des pays arabes et premiers concernés. Aujourd'hui, ces trois États sont les maîtres du jeu en Syrie.
Alors, dernier point, il s'agit de la France, on y revient. À l'instant, la France assumera toutes ses responsabilités au titre de la lutte contre la prolifération chimique. Est-ce que là, on a affaire à une inflexion de la position française ?
Il faut rappeler qu'il y avait un engagement de la communauté internationale. Souvenez-vous, il y avait un accord, et la Russie s'est engagée à ce que le régime syrien se débarrasse de toutes ses
objets. Son arsenal, c'est ça.
Hein. Son arsenal, avec l'accord d'une organisation internationale, et rien n'a été fait. Donc les membres de la communauté internationale, et surtout les membres du Conseil de sécurité, sont obligés à tenir leurs engagements. En revanche, la marge, hélas, de manœuvre de la France, mais aussi de la Grande-Bretagne, est très limitée pour à la fois exercer une pression militaire ou, bien entendu, ouvrir un autre front avec un autre État qui devenait important, à savoir la Turquie, dans le nord de la Syrie.
Merci à vous, Hasni Hamidi. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Vous publiez aux éditions Éric Bonnier, Moyen-Orient, le temps des incertitudes. Et vous faites à l'instant allusion à la Turquie, référence à la Turquie. Eh bien, la Turquie, comme on le sait, qui a des centaines de milliers de réfugiés sur son sol, elle vient d'expulser ce dimanche à bord de vols spéciaux 227 ressortissants afghans. 681 autres seront reconduits à Kaboul la semaine prochaine. La police allemande prétend avoir déjoué un attentat à Berlin. 4 arrestations, dont celle d'un homme qui préparait une attaque au couteau à l'occasion du semi-marathon de ce dimanche. Selon le journal Die Welt, ces suspects entretenaient des liens avec le Tunisien Anis Amri, qui avait au volant d'un camion tué 12 personnes sur un marché de Noël de la capitale. C'était en décembre 2016. La question n'est pas qui sera enregistré en tête des législatives hongroises ce soir tard, mais quelle majorité pour le Fidesz, le parti du Premier ministre ? Quel score pour l'extrême droite de Jobbik ? Quelle ampleur pour le vote protestataire ? Le Premier ministre sortant, Viktor Orban, aura-t-il fait le bon choix en abusant de la thématique ethnique ? Bonsoir Florence Labruyère.
Bonsoir.
Vous êtes Florence en direct de Budapest. Il est un peu tôt pour répondre à toutes ces questions, mais ce qui semble avéré, c'est le niveau de la participation.
Oui, absolument. De longues files, il y a de longues files d'attente devant les bureaux de vote dans toutes les grandes villes. Donc pas de doute, les Hongrois se mobilisent en masse. À 17h, 63% des électeurs avaient déjà voté. C'est beaucoup plus important que les années précédentes. Et cette mobilisation, eh bien, elle est massive dans tout le pays. Il y a notamment beaucoup de jeunes. Alors il n'est pas impossible qu'en fin de journée, le taux de participation atteigne ou dépasse les 70%. Et là, le parti de Viktor Orban serait peut-être en difficulté. La dernière fois qu'on a atteint ce taux, c'était en 2002, l'année où Viktor Orban a perdu les élections après un premier mandat au gouvernement. Alors certes, le chef de la droite a complètement remanié le système électoral à son avantage, ce qui rend la victoire de l'opposition plus difficile.
Pourquoi Florence ? Pourquoi les Hongrois se sont-ils mobilisés en force ?
Alors, le Fidesz, le parti de Viktor Orban, a mené une campagne très active dans les villages et dans les zones rurales. Et dans ces régions, les seuls emplois sont les travaux d'intérêt public. Alors, les maires du Fidesz ont laissé entendre aux habitants que s'ils ne votaient pas pour le parti au pouvoir, ils n'auraient plus de travail. Donc les habitants vont voter pour le Fidesz, un peu contraints et forcés. Et cette mobilisation importante dans les villages n'est pas forcément une mauvaise chose pour Viktor Orban. Et puis, alors, deuxième raison, l'opposition a répété qu'il fallait aller voter. Le message a été entendu par les électeurs. car si la participation est vraiment très élevée, si elle dépasse largement les 70%, ce sera profitable à l'opposition, qui a plus d'électeurs de réserve que le Fidesz, surtout dans les villes. Et puis enfin, troisième raison, il y a un mois, lors d'une élection partielle, le Fidesz a subi une défaite cuisante dans l'un de ses fiefs, une défaite qui n'avait pas été prévue par les sondages, et cette élection a complètement rebattu les cartes. Elle a redonné espoir à l'opposition, elle a aussi peut-être incité des abstentionnistes à aller voter aujourd'hui.
Merci à vous Florence Labrouillère en direct de Budapest. En France, la première réplique de la grève par intermittence à la SNCF, elle se poursuit jusqu'à demain soir. La direction table sur un taux de grévistes de 43%. Parmi, ce sont les termes du communiqué, les personnels indispensables à la conduite des trains. Fin de citation. La coordination nationale étudiante appelle à une nouvelle mobilisation mardi prochain contre les nouvelles modalités d'accès à l'université et à rejoindre justement les cheminots le 19 avril. De la grève des cheminots, des trains de réforme gouvernementale, il fut question aujourd'hui à Aubervilliers, où le Parti Socialiste a tenu le 78e congrès de son histoire. Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire, a, dans son discours, positionné l'EPS sur l'abscisse. Laurence Perron.
Un exercice d'équilibriste que ce discours pensait comme celui du jour 1 de la renaissance du Parti Socialiste. Il s'agit d'apparaître crédible dans l'opposition au moment où le mouvement social refait se croiser les trajectoires de Jean-Luc Mélenchon, d'Olivier Besancenot ou de Benoît Hamon. Olivier Faure lui entend incarner une opposition ferme à Emmanuel Macron tout en dénonçant le populisme porté par ce qu'il appelle la gauche bruyante. La surenchère verbale ne coûte rien, dit-il, elle ne rapporte rien non plus. Pas question de dire noir quand Macron dit blanc, une opposition résolue et responsable à celui qu'il qualifie néanmoins de président des riches et qu'il accuse de vouloir restaurer l'ancien régime. Exercice d'équilibriste aussi puisqu'il s'agit de restaurer l'idée d'une Europe sociale à laquelle la gauche en France ne croit plus guère. Nous devons cesser d'être les idiots utiles de la mondialisation, estime le nouveau premier secrétaire, mais il ne faut pas jeter l'Europe avec l'eau du bain libéral. Et c'est là que la voie est véritablement étroite et contestée d'ailleurs au sein du parti, s'allier avec les représentants portugais, allemands ou grec, d'une social-démocratie à bout de souffle. Pas sûr que ça ne fasse pas cortège funèbre plutôt que marche de renaissance.
Refermons ce journal sur ce constat. Les monnaies locales fleurissent dans le territoire. Eh bien, l'une d'entre elles passera le périphérique parisien sous peu. Dans un peu moins d'un mois, à Paris, il sera possible de payer en pêche. Cette monnaie citoyenne s'échange déjà dans plusieurs villes de très proches banlieues, comme à Bagnolet, où s'est rendue Eva Gennac.
Dans son restaurant, Sokhna Youssouf tient deux comptes bien distincts, l'un pour les euros, l'autre pour les pêches.
50 pêches, un billet de 2.
Cela fait 4 ans que la pêche est utilisée dans l'Est parisien par une centaine de commerces. À Bagnolet, le restaurateur est le premier à avoir tenté l'expérience. Une dizaine d'entreprises l'ont suivi.
Il y a beaucoup de fournisseurs qui sont juste autour de nous à Bagnolet qui prennent la pêche. C'est des clients aussi, c'est mes clients et qui viennent ici, qui me payent en pêche. Moi, je vais aller chez eux, j'achète des choses. Le but, c'est ça aussi, faire circuler les monnaies. C'est pas uniquement les récupérer, aller les changer. C'est dynamique, économique et solidaire.
Bien loin de la spéculation des marchés financiers, la monnaie locale citoyenne recentre les échanges. Lucas Rochette-Borlon est le cofondateur de l'association Une Monnaie pour Paris.
Une monnaie locale peut circuler jusqu'à 10 à 15 fois plus vite qu'une monnaie nationale comme l'euro. Et donc, avec la même quantité d'argent au début de l'année, on peut avoir beaucoup plus d'impact sur son économie locale que si on avait dépensé en euros. En France, on a l'exemple de Lushco au Pays Basque, qui en 4 ans a permis la relocalisation de 400 activités commerciales et industrielles. C'est-à-dire qu'en 4 ans, des activités qui, ces 30 dernières années, avaient été délocalisées en Europe de l'Est ou en Chine, ont été relocalisés dans le Pays Basque, ce qui a créé des emplois, a permis de redévelopper des entreprises et donc de dynamiser l'économie locale et la transition écologique.
Un exemple plus qu'encourageant pour l'association chargée de développer la monnaie francilienne. La pêche se déploiera à Paris dans près d'un mois, le 12 mai prochain.
Les grandes lignes météo de demain lundi, des pluies marquées le matin du Languedoc à la Corse, retour des pluies instables l'après-midi au nord des Pyrénées, quelques ondées du massif central au nord du pays, temps clément sur le centre et le nord-est. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.